j'ai vu un très grand feu de joie de l'Assemblée et du Sénat. On n'aura plus rien à faire de nos belles prisons. Quand on n'aura fait que se taire pour avoir raison. Quand il n'y aura plus rien à faire dans nos belles prisons. Quand il n'y aura plus de saison, dis-moi toi, qu'est-ce que nous dirons?
Les gens meurent dans les mauvaises nouvelles. Les articles de journaux sortent la vie comme des poubelles. Dans les écrans, les gens montent leur vie comme si elle était belle. Et le ton monte et les tatus mon feedback tu bleu comme le ciel. Rouge comme le sang dans les écrans, les gens s'écrasent calmement. Ne plus rien être. Et la question que dirons-nous dans 50 ans? On nous dira tu étais où, tu faisais quoi il y a 50 ans?
En direct dans Patchworld, c'était Klaus Tinto. Merci pour cette découverte, Anna.
Avec plaisir.
Donc est-ce qu'il a des vidéos, du son sur Internet à choper?
Carrément, carrément. Il a sorti un clip il y a quelques mois de ça, sur un titre qui s'appelle « Il y a plein de chemins ». Donc vous tapez sur les grands YouTube « Klaus Tinto, il y a plein de chemins » pour trouver ça. Et du coup, ce morceau est extrait d'un EP. D'un EP qui est sorti donc il y a quelques mois sur les labels La Souterraine et L'Affect Records, donc L'Affect Records, label lyonnais.
Merci Anna. Du coup, on découvre maintenant des textes de Catherine Zambon, ou tu avais d'autres points à faire sur l'agenda peut-être?
Peut-être qu'on peut terminer par le point agenda.
Ok.
Alors, donc pour recontextualiser, pour les personnes qui arrivent, les textes qu'on va lire sont des textes écrits par Catherine Zambon. Extrait d'un livre intitulé « Nous étions debout mais nous ne le savions pas » qui est paru en 2017 aux éditions La Fontaine. Ces textes ont été glanés par Catherine Zambon durant plusieurs années où elle a écumé différents lieux de lutte en France. Donc évidemment Bure, Notre-Dame-des-Landes, mais aussi le plateau des Mille Vaches, Longomaille, etc. Et elle a discuté avec beaucoup de personnes diverses et variées. Et suite à ça, elle a réécrit des témoignages. Donc je dirais que ça parle, en tout cas l'analyse que j'en fais au jour d'aujourd'hui, l'analyse que j'en ai faite quand je les ai relus, c'est que ça parle un peu de cette prise de conscience militante qui peut avoir quelque chose d'un peu magique parfois, quand on se rend compte qu'on, qu'on a un avis sur les choses et qu'on n'est pas d'accord et qu'on ait une capacité d'action. Catherine Zambon, pour contextualiser, donc c'est une écrivaine, metteuse en scène, actrice aussi, il me semble. Voilà. Pour encore terminer de contextualiser, on a découvert ces textes avec plusieurs amis à Bure, dans le Bois le Jus, donc en septembre 2016. C'était elle-même qui lisait ces textes-là et c'est vrai que ça a été assez émouvant pour nous à ce moment-là de les entendre. Donc c'est pour ça qu'on avait envie de les partager de nouveau. Et j'en profite pour remercier Catherine qui a bien voulu qu'on lise ces textes aujourd'hui sur Radio Canu dans l'émission Patchworld. Le regardeur 1. Ça ne peut pas se passer comme ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas imaginable. Souvent, tout commence par ces mots. On est atteint. On va toucher à notre terre, notre village, à la rivière de l'enfance, au vallon où on est installé, on est en colère. On va parquer des animaux sous nos yeux et nous allons devoir vivre avec cette agonie programmée, on est indigné. On nous interdit d'héberger des réfugiés, de les aider, on est exaspéré. On met face à l'opposition d'une jeunesse, la violence policière, stop. On ne saisit pas pourquoi c'est ce jour-là, précisément ce jour-là, que nous sommes submergés. Il faut croire que ça montait depuis longtemps. C'est rassurant d'un certain point de vue, on n'est pas totalement éteint. Mais par ailleurs, c'est inconfortable. On vivait mieux sans ça. Cette chose qui grandit au-dedans. Ça glue, étouffe, étreint. Peut-être que cela a à voir avec la conscience. Comment savoir ? En parler à un curé, un psy, un médecin, un ami, son conjoint ? Ça relève de la sphère intime, croit-on. On est seul avec ce truc impartageable, on imagine à ce moment-là que ce n'est pas partageable. On regarde le monde dans lequel on a fait sa vie, on voit bien que ça ne marche pas de façon satisfaisante, ça ne marche plus de façon satisfaisante. Qu'est-ce qui a changé ? Les petits repas entre amis semblent une bien jolie façon de masquer un vide. La vie de famille accapare tout comme pour dire « Reste chez toi, occupe-toi des tiens, les autres passeront après. » Il y a une sorte d'indécence quelque part où qu'on soit. Qui que l'on soit. Ce jour-là, pourquoi précisément ce jour-là naît le dégoût ? De quoi ? C'est là où la confusion est extravagante. De tout, de l'autre, du différent, de soi, du monde. Il est aussi habile, ce monde, pour donner de quoi combler l'ennui que pour construire une insécurité qui nourrira la haine. Il est habilement bâti par de savantes pensées qui n'ont rien à voir avec un soi-disant « vivre ensemble, vidé de sens ». Sauf que là, justement, il y a ce je ne sais quoi intérieur qui laisse à penser que les psychotropes vont être inefficaces. Les voyages en Inde, en Italie ou au Japon aussi, il y a de la souffrance. On a parfois envie de pleurer, mais quoi ? Une souffrance ontologique. Pas de quoi se jeter dans la rivière, quoique. On n'a pas l'âge de dire c'était mieux avant. On n'aura jamais cet âge-là, plutôt crevé. Mais merde, qu'est-ce qu'on a foutu ? On a 27 ans. 56 ou 72. Un jour, cette boule au-dedans, ce chagrin, parce qu'il faut bien lui donner un nom, ce chagrin offre deux solutions. Renoncement ou audace. Dans le premier cas, le renoncement, ça flaire la mort et la solitude. Et on sent bien que la boule peut enfler comme une baudruche et il vaudrait mieux être seul le jour où elle va exploser. Seconde hypothèse, l'audace. Et alors, c'est la peur qui s'en vient. Car personne ne peut dire ce qui va se passer. Personne. Là oui, ça fait peur. Non, ça fout la trouille. Et si... Y aller, fébrilement, rejoindre des autres. On n'a jamais parlé en public, femme sans histoire, homme timide. On va pousser une porte, on ne sait qui on va rencontrer. Thank you.
Voilà, donc toujours la découverte de ce nouvel album qui n'est pas encore sorti, donc c'est vraiment en avant-première dans Patchworld, Odyssée, un d'oracle. Donc là, c'était quel morceau, le 2, donc les poupées mécaniques. Alors on reprend avec Anna sur les textes de Catherine Zambon.
Exactement. Je vais vous lire maintenant le récit 6, qui s'intitule Regret, et qui est un témoignage de Phil. On a laissé la peur derrière nous. Ça me revient en pleine gueule. Ma génération a grandi avec l'idée de l'ascenseur social. J'ai été bâtie avec ça, ce sentiment qu'avec l'éducation, le travail, la volonté, on ferait mieux, beaucoup mieux que nos parents. Ça a marché, ça n'était pas difficile. Il y avait du travail dans les années 70-80. Si on voulait, on gagnait de l'argent. En tout cas, on accédait à des formes de richesse. Éducation, culture, travail, logement. On a vécu sans le savoir dans une sorte d'aisance, ignorant que ce monde pouvait revenir en arrière, récessé. L'environnement, on n'y pensait pas franchement. Nos gosses allaient s'en sortir, on y était bien arrivés, nous. J'ai eu de belles années. On avait le temps de vivre, d'aimer, même si on a vu arriver le sida avec sa cohorte d'amis perdus. Se marier, on n'y pensait même pas. Ça a été fait à tous les étages pendant 15 ans quand j'y pense. Je n'avais pas prévu que ce monde allait changer et que ça allait devenir de plus en plus difficile économiquement. Qui ne s'est pas foutu ses gosses ados à force de leur dire qu'ils devaient bosser à l'école sinon ça serait caissière? Et ce faisant, on leur inculquait le mépris des caissières. Mépris des petits boulots, mépris des métiers manuels, mépris le meilleur ami de la peur. Maçons, agriculteurs, plombiers, on laissait ça au laisser pour compte. Nous, les nôtres, ils feraient de ces métiers encore inconnus de nous. Réussir, c'est ne pas être comme l'autre, le pauvre, le paresseux, le sans ambition, le couillon, celui qui se fait avoir par le système. C'est moi qui l'ai trompé, le système. Mon ambition de jeune homme, elle ne m'a rien coûté à mon époque. Mes gosses allaient m'épater autant que j'avais épaté mes parents. Dans un premier temps, j'ai eu une sorte d'indulgence quand j'ai compris qu'ils ne s'en sortaient pas si bien, mes gosses. Et puis j'ai fini par me poser des questions. Lorsqu'on en parlait entre parents, on se la jouait faussement tranquille, ne pas perdre la face. On disait d'un air supérieur, « Il prend son temps, elle fait un stage, il se cherche. » Là, on était déjà perdus et on paniquait à mort à se réveiller la nuit en se demandant comment on allait s'en sortir à payer des études, des fringues, le permis à des gamins infoutus d'être autonomes. On a fait jouer des relations, on leur demandait de se plier à nos exercices de sagesse. On ne leur apprenait rien que la peur. Pas tous les parents, pas tous. Moi, oui. Si je suis honnête, oui. J'ai été rassurée quand ma gosse a trouvé son premier job, même si elle était payée comme une merde et qu'elle prenait la place de 3 salariés. J'ai été fière quand elle a acheté son premier appartement, un truc de naze au-dessus du périphérique qui allait la lier pour 35 ans. Pauvre imbécile. Quand elle a voulu changer de job, l'œil terne et la joue grise, je lui ai dit qu'elle devait réfléchir, ne pas prendre de risques. Quand elle a changé de mec, je lui ai affirmé que c'était irresponsable de se séparer. Elle m'a rétorqué « Tu as fait pareil, papa. » Quand elle a tout envoyé péter, elle ne m'a rien dit. Elle l'a fait, c'est tout. Elle a quitté son mari, sa ville, son job. Elle a pris ses petits et hop. Pendant 6 mois, elle ne m'a rien dit. Et moi, plutôt que de l'aider à construire sa nouvelle vie, j'étais humiliée. C'était un ratage. Je ne voulais pas me dire ce qui était raté, c'était mon éducation à la con. Je n'ai rien compris à cette génération, à ce monde. Je n'ai rien vu venir. Avec mon héritage, un môme, il reste môme. Il ne peut pas être autonome. C'était cousu de fil blanc. Il épouse le système, il n'a pas le choix. J'ai été un brave soldat de ce pouvoir cacochine. Alors que je vote à gauche et que je ne rate pas une manif, je me sens contestataire. Ne souriez pas. Les biens matériels restent encore aujourd'hui pour moi le must en termes de sécurité. J'y peux rien. La réussite, un but, j'en suis là. Ce que je lui ai offert comme modèle est obsolète. La plupart des gosses de cette génération, ils ont 30-32 ans, ils ne savent pas faire un jardin, tenir une perceuse, monter un mur. On leur a appris à chercher un boulot, à baisser la nuque, à faire des emprunts. Un emprunt sur 35 ans, est-ce qu'on peut imaginer combien ça doit bousiller un rêve? Lorsque je regarde ces jeunes aujourd'hui, je les trouve si sages. Sages et exsangues. Ils ont essayé d'être à la hauteur de nos rêves à nous, pauvres abrutis aveuglés par notre propre forfanterie. C'est des rêves qui sentent la naphtaline et la compromission. Ça ne tient pas la route face à la misère des villes, les migrants noyés de la Méditerranée, la violence policière. Je sais, j'exagère. J'espère. Si quelqu'un peut m'aider à comprendre, je veux bien. J'ai 2 500 € de retraite. Il paraît que c'est beaucoup, me dit ma fille. J'y comprends rien. Si vous la voyez, ma fille, dites-lui que je me suis trompée. Écho. Repérage d'une parcelle de maïs OGM qu'on a l'intention de faucher. On a fait des vérifications pendant une dizaine de nuits, en douce évidemment. L'agriculteur a fait savoir que personne ne viendrait l'embêter, le fusil est au pied du lit. Il y a même un vigile avec un chien, c'est chaud. Les potes doivent entrer dans le champ pour faire ce qu'ils ont à faire. Moi, je suis chargée de surveiller la ferme et de prévenir si ça bouge. Nuit noire. Je me planque en contrebas, je m'installe. Jumelles, haut, Toki, on est tous tendus, aux aguets. Tout à coup, je sens une présence. Je me retourne doucement, je m'attends à... je sais pas. Et là, je vois un renard. Magnifique. Il me fixe, les yeux luisants dans la nuit. J'ai le souffle coupé. Et hop, il file. J'ai le cœur un peu serré en revenant le lendemain. Lui aussi reviendra le lendemain, il reviendra chaque nuit. Au bout de 10 jours, il est à 1 mètre de moi. J'aurais pu rester toute ma vie dans ce champ avec le renard. J'ai eu la conviction qu'il était des nôtres, ou plutôt que nous étions des leurs.
Antoine Rouge est un vagabond, sans fonction ni patron. Il veille sur les nuits d'une ancienne banlieue rouge. Antoine Rouge dort le jour, mais chaque nuit, l'insomnie vient le tirer du lit. L'appelant au devoir, sa mission, veiller sur la cité dortoir.
Justice à tout prix.
Ça, c'est la cadence parfaite. Hein. Ah, tu disais, Anna, tu fais aussi de la contrebasse. Du coup, pendant que la musique passait, on disait, bon, bah, est-ce que le web n'a pas fonctionné et que tu vas lancer ce morceau en octobre, je te réinviterai pour...
Trop bien, avec plaisir.
Donc, comme le monde est petit, tu connaissais déjà ce groupe-là, donc Fanny et Guillaume qui sont venus la semaine dernière, oui. Donc Odyssée, un oracle. L'album sortira, je crois, aussi en album. Donc, c'est l'album s'appelle Crocorama. Comme ça, vous pouvez déjà tapoter sur les informations pour découvrir ce groupe.
Oui, il me semble qu'elles ont sorti un clip il y a pas très longtemps.
Voilà, donc on peut trouver tout ça sur Internet qui fait plein de déchets nucléaires après.
Complètement. Enfin,
c'est le serpent qui se mord la queue.
Exactement. Et ben on continue avec des extraits de Nous étions debout mais nous ne le savions pas de Catherine Zambon. On a fait une petite recherche Wikipédia pendant le morceau. Et donc on peut vous dire que Catherine Zambon a fait des études au conservatoire de région de Lille, qu'elle a été ensuite actrice pendant un certain temps, puis metteuse en scène et écrivaine. Peut-être on peut faire encore deux textes, c'est bien ? Autant que je veux, autant que ma parole le peut. Alors, le premier texte, c'est le récit numéro 5 qui s'appelle Forêt, qui est donc un témoignage de Mika. Je n'ai pas voulu être père, et je le suis. Être père, c'était encombrer l'humanité d'une bouche de plus. Être père, c'était me couler dans un moule. Longtemps, je me suis dit que c'était leur faire la part belle à tous ceux-là qui me voyaient en père rigoleraient en disant « Voilà, il va se calmer, voilà. » Je voulais pas. Et tu es là. La force que tu me donnes, ma fille, cette force est immense. Peut-être va-t-elle m'éloigner de toi. Nous t'avons faite, ta mère et moi. Vivre avec vous dans un lit confortable, je ne le peux pas. Nous pourrions t'offrir une bulle, ce qu'ils appellent une sécurité, nous pourrions. J'ai très bien gagné ma vie, je pourrais recommencer. Mes mains sont en or. Je travaillais docilement pour des gens sympathiques, bourrés de thunes. Je ne renie rien, j'ai aimé ça. Mais dans cette vie-là, de sécurité, je n'en ai jamais eu. J'avais du fric et pas d'amis. Ma vie, je la vendais. Puis, j'ai lu le bon livre. Un jour, tu le liras toi aussi. Depuis le début, c'est le bois qui m'a attirée, la forêt. Je n'ai pas perdu de temps dans ces années de docilité servile. J'ai observé. Lorsque j'ai compris à quoi j'appartenais et ce que j'étais en train de faire de ma vie, travailler pour une bande de gens qui se foutaient éperdument de ce qui se passe à côté de chez eux, quand j'ai compris le mensonge organisé dans lequel on vit, je n'ai pas craqué d'un coup, non. Je prends jamais de décision à la légère. Je suis un lent, un ours, un homme des bois. Chaque pas compte, chaque geste doit être précis, mesuré, calculé. Toi, tu ne l'étais pas, je te l'accorde, mais te faire ne relever pas de l'ébénisterie. Ce soir, je repars, je te laisse dans tes rêves d'enfant de 6 mois. Là où je vais, il y a une terre où des gens sans âme veulent faire un trou pour mettre des déchets atomiques. Je ne t'emmène pas là-bas, car si un jour elle se fait cette poubelle nucléaire, je deviendrai trop vulnérable avec toi, apprenant à faire tes premiers pas dans une campagne agonisante. Après l'abondance parisienne, j'ai dû mettre ma vie dans une cabane au fond d'un jardin. Je n'ai jamais été aussi heureux. Tu es là. Et je n'ai jamais été aussi déterminée. Ça me prend les tripes que tu sois là, ça me parle d'avenir. Puis-je rester immobile en ce monde alors que tu vas y vivre ? Je ne sais pas ce qui peut m'arriver, je le sais pas. Je suis non-violent, profondément. Même si je ne connais rien de plus violent que la non-violence. Je déteste ce que nous avons fait de ce monde. Je déteste l'invulnérabilité des puissants qui décident de comment on doit vivre, où on doit vivre, ce qu'on doit manger, comment on doit élever un enfant. Je pars, ma fille. Je ne cesserai jamais de te parler de ce qui fait que je serai ce père-là. Ce père qui jamais ne t'abandonnera. Te mettre à l'abri, c'est ne pas t'emmener sur un champ de résistance. Je vais continuer à faire des choses, là-bas et ailleurs. Je sais me faire discret. Les bois feront écorce pour moi, et à moins de brûler la forêt, on ne me retrouvera pas. Jamais je ne renoncerai à lutter. C'est le sens que j'ai donné à ma vie. Avant, j'en avais pas. Car tu ne seras jamais réduite à cela. Jamais je ne veux penser que tu donnes un sens à ma vie. Ce serait si peu digne de toi. Un jour, tu te promèneras dans la forêt et tu sauras que s'il y a encore des arbres, de l'air, une terre, un monde possible, c'est que des femmes et hommes ont engagé une part de leur vie pour ça. Peut-être n'aurai-je pas de maison, peut-être n'aurai-je pas de famille, mais sur le chemin que je poursuis, nous sommes des milliers. Des milliards de pas qui dessinent un avenir pour toi dans la forêt. Pour toi. Chante pour moi, ma clairière, ma forêt, ma tourterelle. Chante. Écho. C'était après la tentative de la reprise de la ferme de Bellevue. Les gardes mobiles ont déguerpi, mais on s'attend tous à ce qu'ils reviennent. On tient les barricades. Il fait nuit noire. Un peu de brume monte du sol. On est 5 ou 6, épuisés mais joyeux. Petit cubi, ça discute. Les battes de baseball sont posées à côté de nous, au cas où. Il y a 3 gars, immenses, impressionnants, avec le crâne rasé. On papote. On surveille. Tout à coup, on voit arriver un véhicule flic, pas flic. On est aux aguets. Tension. Mais vu le bruit de vieux camion pourri de la ZAD, on est vite rassuré. 3 personnes sortent, des camarades. Ils déchargent on ne sait quoi en silence. Ils semblent pressés, peu de mots échangés. Au moment de partir, ils crient « Bonne crêpe !» On se regarde les uns les autres et on comprend alors qu'ils nous ont apporté de quoi faire des crêpes. Pâtes, réchaud, poêle, même la table. Je me souviendrai toute ma vie de la suite. Des grands costauds rasés, antifascistes, en train de se faire des petites crêpes à 3h du matin au milieu des barricades.
Encore discuter pendant le morceau, alors on s'est fait surprendre par le final. En même temps, cette mélodie était très berçante,
ouais.
Donc on aurait pu l'écouter comme ça.
En boucle.
Oui, bah du coup, c'est parce qu'on disait que tu disais qu'il y a une manifestation à 18h30.
Oui, exactement, j'étais en train de dire qu'il y avait une manifestation à 18h30, place de la Comédie, manifestation féministe pour gueuler contre le remaniement du gouvernement, où on a notamment des agresseurs et des violeurs qui accèdent à des titres de ministre. Voilà. Donc, rendez-vous à 18h30, place de la Comédie.
On continue du coup avec nos petites lectures. C'est très fort, hein, ces témoignages. Ils sont d'une grande diversité.
Ouais, vraiment. Et c'est vrai que à la relecture dans ma chambre, je trouvais qu'il ne me faisait plus le même effet, mais en fait, si. J'ai changé d'avis.
Catherine Zambon, ces textes, on les trouve comment ?
Ces textes, on les trouve, j'imagine, en librairie. Et c'est possible de commander aussi Donc ce recueil de textes qui s'appelle « Nous étions debout mais nous ne le savions pas » qui est paru aux éditions La Fontaine. Donc vous tapez le titre du livre « Édition La Fontaine » sur internet et puis le commander. Et ils sont aussi donnés en théâtre. Donc c'est vrai que si vous voyez passer le titre de cette pièce, foncez. Donc un dernier extrait des textes de Catherine Zambon. Je vais boire un coup avant.
Prise de piège, ta manège, la tête enveloppée de papier chiffonné, les nouvelles bien trop cruelles, vitrifiant les cœurs d'un puissant spectateur, des sourires empêchés qu'on ne peut plus consoler.
Odyssée et Oracle, l'album s'appelle Crocorama, il sortira en octobre, donc c'est en inédit dans Patchworld, et c'était le titre Le Manège. Anna nous a préparé encore un dernier texte de Catherine Zambon, qui s'appelle
Renoncule. Ça vous paraît normal, ça? Un gosse qui se fait flinguer juste parce qu'il est là, au mauvais endroit, à la mauvaise heure? Tu es père. Ça veut dire que tu l'aimes un peu, ce monde. Alors tu donnes à ton gosse l'amour des belles choses. Qu'il ait le réflexe de la camaraderie, parce que sans ça, il finira comme un chien, et toi, même s'il doit un jour faire DRH, tu as envie qu'il le fasse bien, son job. Qu'il soit apprécié. Mais il y a peu de chances qu'il soit DRH. Parce qu'il a le goût de notre terre, de la terre des autres. Tu lui as donné de quoi faire face à ce raz-de-marée d'individualisme. On l'a emmené en vacances au bord de la mer, à la montagne. On a vu des ours, des violettes, des vautours. Il a eu le droit à tout ce que tu pouvais lui offrir, c'est déjà beaucoup. Alors lui, le fils, qu'est-ce qu'il fait? Il apprécie ce monde. Il aime les rivières. Pardon. Il aime les rivières, les combles, les oiseaux, les cochons, les chevreuils, les feux de bois, que sais-je. Pour autant, ça ne fait pas de lui un contestataire, non? Il adore la nature, et toi, tu es là comme un con, heureux parce que ton gosse, il a le respect de ces choses. Il a envie de travailler dans l'environnement ou l'humanitaire, ça te fait sourire. Mon fils va ramasser des champignons avec son grand-père Léo, ça lui fait plaisir à son grand-père. Un cheminot qui m'a éduqué dans le respect de l'autre, un cheminot qui m'a dit « Ne traverse pas la vie sans aider l'autre, ne fais pas ça. » Et pourtant, il était plutôt coco que cato. Léo, mon père, tout cheminot qu'il est, il m'a fait moi. Je suis chercheur. J'ai tout ce qu'il me faut pour vivre dignement. Je sais que si je m'écoutais, on pourrait vivre dignement à 10 de plus, mais je ne m'écoute pas. Ou alors, pas encore. Ce n'est pas mon fils qui s'est fait tuer par une grenade explosive aux abords d'un barrage en construction. Ce n'est pas mon gosse, mais ça me fout dans une rage. Il paraît que le flic qui l'a descendu est très choqué. Je comprends qu'il le soit, c'est la moindre des choses qu'il soit choqué. J'imagine flinguer un gosse qui veut consacrer ses recherches à la renoncule. Il y a de quoi ne plus pouvoir dormir. Il croit quoi ce type quand il s'engage dans ce métier? Qu'il est maraîcher? Moniteur de plongée? Il y en a d'autres des métiers, non? Un tiers des blessés dans les manifestations sont des mineurs, un tiers. C'est ce que m'a dit mon père. Il y a qui dans les manifs? Des voyous? Des hurluberlus? De la racaille? Et alors? Les hurluberlus, la racaille, ils n'ont pas le droit de manifester? Dans une manif, il y a aussi ma fille, mon fils. Il y a des mères avec des bébés, des papas, où j'y suis allée une fois ou deux. Il y a des vieux, des riches, des pauvres, des chômeurs, des idiots, des mecs géniaux, des musiciens, des philosophes, des étudiants, des SDF. Il y a de tout dans les manifs. Tout le monde a le droit de descendre dans la rue, sur les places, et de dire ce qu'il veut, merde, à la fin. Je suis chargée des recherches au CNRS, les matériaux hybrides. Trop compliqué à expliquer. Ça n'a rien à voir avec les aéroports, les barrages, le gaz de schiste, rien. Mais j'ai lu sur ces sujets environnementaux. J'habite dans le 92 et un chiffre près, on me prendrait pour un délinquant. Vous êtes du 93? Non, 92, vieille pomme. Ça commence à m'exaspérer, cette culture élitiste de la réussite. L'avenir radieux, croissance, tout ça, ça commence à m'exaspérer. Mon père n'a pas cru en une élévation sociale pour qu'on en arrive à ce monde-là. Il était polonais. Il a bossé comme un dingue, et tous, on a un métier qui fait de nous des gens aisés. Hier soir, mon père a pleuré devant les infos. Il a pleuré. L'histoire du gosse, là, Rémi, mort à Sivens. Il m'a dit, ne renonce pas, Titi. Il m'a toujours appelé Titi, en vrai, il aurait aimé m'appeler Tito, mais ça aurait nui à ma carrière. Titi, il m'a dit, je m'appelle François, en vrai. Titi, ce petit gars qui est mort, là, faudrait y aller là-bas quand même et je sais pas faire quelque chose. Il voulait lui planter un champ de renoncule. Il marche mal, mon père. Quand il va aux champignons, jamais il ne dira qu'il souffre. Mais il était prêt à traverser la France pour aller planter des renoncules. Non, 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 j'ai dit, tu restes là, ça ne changera rien. Depuis que je l'ai quitté, ça gonfle en moi. Parce qu'il a dit, ça aurait pu être Balou. Balou, c'est mon fils. Je sais pas ce que ça m'a fait, c'est monté d'un coup au cerveau. Mon cerveau archaïque, je suppose. Celui d'avant l'opulence et la maison dans le 92. Celui de la terre polonaise envahie et trahie. Celui du miséreux, du brutalisé par l'histoire. J'ai cru que j'allais avoir un malaise sur l'autoroute. J'ai dû m'arrêter. Oui. Ça aurait pu être Balou qui a déjà fait un camp climat ou je sais pas trop quoi. Je m'arrête sur une aire d'autoroute, j'appelle ma femme Lisette. Il est où Balou? Elle sait pas. Et là, sur cette aire d'autoroute, cet espace hors temps et hors beauté, un camion qui transporte des bestiaux s'arrête, le chauffeur descend et va aux toilettes, je sors, je m'approche du camion, je vois des bêtes entassées, deux étages de veau entassés, qui vont Dieu sait où, probablement pas en estive. Et là, je vomis. Je vomis un monde qui laisse mon vieux père en larmes devant la mort d'un gosse assassiné. Je vomis un monde qui agglutine plus de 100 jeunes bêtes épouvantées dans un camion. Un monde qui n'enterre pas les migrants percutés sur une autoroute. Des migrants que des nantis comme moi sont effrayés à l'idée d'accueillir au bout de leur rue. Au bout de leur rue. Il est où mon fils? Le type au bestiaux repart. Je vais boire un café. J'appelle Balou 10 fois. Je me dis que si ça se trouve, il est là-bas, là où le jeune est mort, si ça se trouve, il... Je chiale. Tout à coup, j'entends. S'il vous plaît, monsieur, vous allez où? Et à ce visage de gamine de 20 ans, cheveux en bataille, un brin timide ou arrogante, je dis, je sais pas. Nous cherchons une voiture pour Calais, répond-elle. A priori, je vais dans l'autre sens, retrouver le 92, mais je ne lui dis pas. Dehors, un jeune gars aux yeux clairs, dreadlocks et compagnie l'attend, sourire en bandoulière. J'appelle Lisette, je retourne voir papa, je t'expliquerai. Je prends un autre café, je préviens mon père, je reviens, j'ai oublié un truc. Et j'embarque Ludo et Tiffen qui vont à Calais faire je sais pas quoi avec des snowboarders dans la jungle de Calais. Je sais même pas ce que c'est des snowboarders. Je suis pas certain d'avoir tout compris, mais je crois que ce sont des matériaux hybrides, mais humains, à ce que je crois en percevoir. En revanche, la honte de la jungle, j'ai bien compris. Je les ai beaucoup fait rire, je crois. Lorsque je suis arrivée chez mon père, il avait déjà préparé un sac pour partir le lendemain. On a mangé une soulek, une soupe polonaise à la saucisse, héritage des congélations de ma mère, et on a bu un verre de vodka. Je me suis dit que je risquais de le flinguer avec ce voyage. Quand Balou a appelé le lendemain, on était déjà quasiment arrivés à Sivens. À ce que j'ai compris, mon fils était en week-end avec Angie, une jeune anglaise visiblement très accaparante. Il s'excusait de ne pas avoir pu appeler plus tôt. Je sais pas de ce qu'il a pensé du fait que son père Titi et son pépé Léo étaient en route pour le sud-ouest pour aller planter des renoncules. J'ai cru sentir qu'il était fier. Moi aussi. Mon père Léo a survécu. Écho. Mon master, c'était gestion sociale de l'environnement. On nous apprenait à faire croire aux gens, qu'on prenait en compte ce qu'ils disaient, on nous apprenait à faire des débats pour que le résultat soit celui qu'on avait imaginé. Ce qu'on faisait, c'était bidouiller pour donner aux gens l'impression que ça venait d'eux. Je n'étais pas venue pour ça. J'étais venue pour le contraire. J'ai arrêté mes études, j'ai rejoint un squat. Là, j'ai mis en application ma notion du débat public.
Les crocs.
Voilà, c'était Pas de choix, donc en direct, tous les vendredis de 16 à 17h, on avait pris l'antenne un petit peu avant. Merci à Anna.
C'était un plaisir, merci à toi pour l'invitation.
Donc rendez-vous tout à l'heure à 18h30 pour la manif Place de la Comédie.
Exactement.
Et sinon, bah, un petit check agenda encore pour faire une piqûre de rappel pour ceux qui prennent l'émission en cours de route.
Exactement, donc c'était une émission sur Bure. Et les différents rendez-vous qui ont lieu cet été et à la rentrée. Donc on a d'abord du 17 au 23 août, une semaine d'atelier rap collectif organisée par Z-Rap, ouvert à tous et à toutes, pas besoin de savoir rapper. Donc voilà, si vous voulez aller rapper du 17 au 23 août à Bure, vous êtes les bienvenus. Ensuite, du 24 au 30 août, il y a un camp international organisé par Radiaction, qui sera à côté de Lyon. On n'a pas plus d'infos pour l'instant, mais vous pouvez vous renseigner sur radiaction.org. Et enfin, du 5 au 11 octobre, gros événement, il y aura une semaine antinucléaire à Bure, donc avec des ateliers, des conférences, plein de choses autour du thème donc antinucléaire, mais évidemment ça sera un petit peu plus large. Et on me dit dans l'oreillette que vous pourrez y voir le dernier film des Scotcheuses, collectif de cinéma en Super 8 qui tourne un film de fiction à Bure et en Meuse depuis maintenant 4 ans. C'est tout pour le point agenda. Si vous voulez plus d'infos pour Bure, on vous invite aussi à consulter le site de Bure qui s'appelle burebure.info. B-U-R-E.
Merci Anna, à bientôt. Et puis dans quelques instants, c'est Richie avec Really Goodies. On vous souhaite un excellent été. Donc aujourd'hui, on est le vendredi 10 juillet 2020. J'ai oublié de le citer tout à l'heure. Il fait très chaud à Lyon. Et bien sûr, donc on vous invite à découvrir l'album Odyssée, un d'oracle, avec Fanny, Alice, Guillaume et Roméo. Donc l'album va sortir bientôt, donc Rocorama. Allez, c'était Patchworld, à bientôt, et n'oubliez pas, ventre affamé, n'a point d'oreille.
C'était Alex Stone sur Radio Canu avec Ezimiyama. Juste avant, on a écouté les Polonais de Skampalalas avec le morceau Skampalalas. Et encore avant, c'était La Fraction avec Le Temps qui passe. Radio Canu, les bandes continuent.
Rastafari, I and I, Rastafari.